Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire, l'avancée des troupes gouvernementales syriennes dans la province d'Idlib, précision de Laure Stéphan à Beyrouth. La riposte de Riyad au Yémen qui a ciblé et frappé des positions conquises à Aden par les séparatistes du Sud. Analyse de l'anthropologue Franck Mermier. L'indignation des accusatrices de Jeffrey Epstein après son suicide en prison. Il devait être jugé pour exploitation sexuelle de mineurs. Un nouveau face-à-face dans les rues de Hong Kong entre détracteurs du pouvoir et forces de l'ordre. Ordre, correspondance d'Angélique Forget et décryptage de Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS. À la fin de cette édition, reportage à Marignane où ce matin, lors d'une marche blanche, des centaines de personnes ont soutenu la famille de Chloé, jeune femme et future maman, abattue par son ex-compagnon dimanche dernier. C'est le 85e féminicide depuis le début de l'année. Répit de très courte durée pour les habitants de la province syrienne d'Idlib qui ont vu l'armée syrienne cesser de progresser dans le nord-ouest du pays entre le 1er et le 5 août dernier. Puis les opérations militaires ont repris. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'armée syrienne vient de reprendre ce jour la ville stratégique d'Al Obeid. Les précisions à Beyrouth de Laure Stéphan.
Après des semaines d'enlisement et un bref cessez-le-feu, le camp pro-régime avance dans son offensive lancée sur le nord-ouest de la Syrie. Épaulé par les bombardements sans répit menés par les avions de Moscou et Damas, l'armée s'est emparée de la localité d'Al Obeid. C'est la première petite ville située dans la province d'Idlib, prise par les forces pro-régime en 3 mois de combat. Les affrontements avec les djihadistes et les rebelles du nord-ouest syrien déployés sur le front ont été spécialement violents depuis hier. Près de 100 combattants des deux camps ont été tués. Reste à voir si les troupes du régime au sol tiendront leur position. Elles ont fait face dans les précédentes semaines aux contre-attaques des forces djihadistes et rebelles. La prise d'Al Obeid ouvre la voie vers la ville de Khan Cheikhoun, place forte de l'insurrection depuis 2012, située à une dizaine de kilomètres et cible d'innombrables raids aériens. Les frappes depuis la fin du mois d'avril, principalement sur le sud de la province d'Idlib et ses alentours, ont tué au moins 800 civils et poussé au déplacement près de 400 000 autres réfugiés dans le nord de la province, près de la Turquie. Elles ont aussi causé d'énormes destructions, y compris à Al Obeid.
Trêve violée en Libye, l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capitale, a été la cible ce matin de tirs de roquettes. Les belligérants s'accusent mutuellement d'avoir rompu la trêve temporaire convenue hier à la faveur de l'Aïd al-Adha. Aucune confirmation à l'heure qu'il est sur l'origine de ces tirs. C'est au large des côtes libyennes que le Ocean Viking vole au secours de celles et ceux qui fuient les conflits africains. Entre autres, troisième sauvetage en trois jours pour les équipes du navire de l'organisation SOS Méditerranée qui compte désormais à son bord 251 rescapés. Les Nations Unies s'inquiètent d'une dégradation. Est-ce le terme approprié de la situation au Yémen? Catastrophique. Après 4 ans et demi de guerre entre Houthis appuyés par l'Iran et troupes gouvernementales soutenues par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, manifestement en profond désaccord, les séparatistes du Sud, qui en principe combattent aux côtés de cette coalition, ont multiplié les coups de force ces derniers jours à Aden, la grande ville portuaire du pays, et Riyad a riposté sans tarder. Franck Mermier, spécialiste du Yémen, directeur de recherche au CNRS et anthropologue.
L'Arabie Saoudite, qui défend le pouvoir légitime du président Hadi, devait d'une certaine façon intervenir pour bien montrer qu'il défend toujours ce camp gouvernemental. Donc ça, c'était important aux yeux aussi de ses alliés au Yémen et dans la région. Dans le même temps, il semble bien aussi qu'on est là face à une sorte de bras de fer entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui peut se traduire par des affrontements par alliés locaux yéménites, puisque les forces séparatistes sudistes profitent aussi de cet armement émirien pour étendre leur influence dans la capitale Aden.
Cette intervention de l'Arabie Saoudite peut-elle calmer le jeu dans la zone ou est-ce que ça remet encore de l'huile sur le feu?
Cette intervention de l'Arabie Saoudite finalement va pouvoir peut-être faire appliquer le cessez-le-feu. Les deux parties se sont engagées à un cessez-le-feu et les deux parties aussi sont convoquées à Riyad pour une réunion pour tenter des pourparlers, pour éviter que la guerre civile, qui existe déjà mais ne s'étende encore, pour que les parties en conflit se retrouvent à Riyad afin de négocier d'une certaine façon. Mais sur le terrain, il faut bien voir que l'Arabie Saoudite ne pourra certainement pas engager toutes ses troupes pour faire reculer les séparatistes sudistes et faire revenir au pouvoir dans sa capitale provisoire, le président Hadi. Donc de facto, finalement, les séparatistes sudistes ont aussi d'une certaine façon gagné une bataille dans le sens où ils contrôlent aujourd'hui militairement toute la capitale provisoire du pays qui est Aden.
L'anthropologue Franck Mermy avec Sophie Delpont. Affrontement plus sévère que lors des week-ends précédents, semblerait-il, à Hong Kong, où celles et ceux qui revendiquent depuis 2 mois plus de liberté publique tiennent tête aux forces de police des manifestations anti-gouvernementales que vous suivez pour nous. Angélique Forget, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct, Angélique, de Hong Kong. Qu'avez-vous constaté ces dernières heures ?
Bien, les manifestants sont une nouvelle fois descendus dans la rue, mais aujourd'hui la réponse des policiers à ces rassemblements interdits a été particulièrement musclée. Des forces de l'ordre ont d'abord repoussé des manifestants dans une station de métro en tirant des gaz lacrymogènes. Et alors que ceux-ci battaient en retraite, ils ont été pris en chasse par la police qui ont usé de la force et de leur matraque. De nombreux manifestants ont été arrêtés. Des vidéos tournées par des confrères hongkongais et qui circulent sur les réseaux sociaux sont particulièrement violentes. Il ne fait aucun doute que cette soirée va marquer l'esprit des manifestants, d'autant que dans l'après-midi, des policiers déguisés en contestataires se sont fondus dans la foule avant de subitement et au hasard de leur déplacement arrêter certains d'entre eux. La situation à Hong Kong au moment où je vous parle est donc très tendue.
Merci à vous, Angélique Forget, en direct de Hong Kong. Bonsoir Jean-Philippe Béja.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la Chine. Un premier commentaire peut-être sur la forme que prennent ces dernières manifestations en date, s'agissant tant des protestataires que des forces de l'ordre.
On a vu des manifestations qui sont de plus... La violence se développer. Il faut bien dire que l'initiative a été prise par les forces de l'ordre qui, depuis quelque temps, matraquent et tirent. Ils ont déjà tiré plus de 2000 grenades lacrymogènes. Alors que pendant le mouvement des parapluies en 2014, qui avait duré 79 jours, ils en avaient tiré 87. Donc, à la suite de l'intervention du Bureau des affaires de Macao de Pékin, il est évident que la répression s'est encore durcie. Et aujourd'hui... Les policiers frappent très fort pour essayer de décourager les manifestants de revenir et d'autre part procèdent à de très très nombreuses arrestations, ce qui est aussi une tentative d'empêcher ce mouvement de durer. Ça fait quand même maintenant 10 semaines qu'il dure.
Jean-Philippe Béja, que dire de ces ingérences étrangères dénoncées à l'envi par Pékin ?
Oui, alors bon, c'est une stratégie assez classique de Pékin de dire que qu'il y a des ingérences étrangères et que les gens sont donc qui sont donc poussés. Vous savez, sur Weixin, qui est la messagerie chinoise, j'ai vu quelqu'un qui avait dit: je ne savais pas qu'il y avait 2 millions d'étrangers à Hong Kong. Quand vous avez 2 millions de personnes qui sont dans la rue sur une population de 7 millions, c'est quand même un peu difficile de penser qu'ils ont été poussés par des pays étrangers. Alors, ingérence étrangère, ça veut dire quoi? Depuis 2003, les dirigeants de Hong Kong parlent de Asia's World City, la cité mondiale au monde. Donc, il faut bien avoir des rapports avec l'ensemble des pays étrangers. Il y a énormément d'étrangers qui sont installés à Hong Kong. Il y a des milliers d'entreprises étrangères aussi. Alors, pour parler des États-Unis, puisque ce sont toujours eux qui sont dans le collimateur, il y a 85 000 Américains à Hong Kong. Il y a plus de 1500 entreprises américaines. Et ce qui se passe, c'est que, évidemment, les différents consulats reçoivent les représentants des divers partis politiques, les partis politiques pro-gouvernementaux, mais bien évidemment aussi les partis d'opposition. C'est quelque chose de tout à fait normal, c'est ce qui se passe dans la diplomatie. C'est pas du tout la même chose que, par exemple, d'avoir des instituts Confucius dans les universités en Occident, où là, vous pouvez intervenir directement. Donc, ce qui se passe, ce sont des rapports normaux entre les diplomates et l'ensemble de des forces politiques du pays.
Jean-Philippe Béja, Pékin, diriez-vous, est dans une situation délicate, parce qu'envoyer la troupe 30 ans après Tiananmen, ce serait prendre le risque d'une image dégradée à l'international en pleine route de la soie, ouais, et puis limoger Carrie Lam, ça conduirait à des élections libres, pas comme celle de 2014.
Alors le problème, c'est qu'évidemment, il y a un refus total d'entamer des discussions politiques. Ça a été réaffirmé par Carrie Lam. Elle a dit qu'elle ne bougera pas là-dessus. La démission de Carrie Lam, en même temps, effectivement, ne résoudrait pas le problème. D'ailleurs, elle est de moins en moins demandée. La question, c'est effectivement la réforme du système politique et la possibilité ou non d'avoir des élections au suffrage universel direct. Bon, ça, il est fort peu probable que Pékin accepte de faire cette concession. Mais d'un autre côté, le coût que représenterait une intervention militaire est énorme. Alors bien sûr au niveau de l'image internationale de la Chine, bien sûr au niveau de ce qui se passerait pour la place financière de Hong Kong, parce que c'est quand même très important, c'est une place financière internationale extrêmement importante, notamment pour les entreprises chinoises. Donc ça, si vous avez l'intervention de l'armée, ben, ce sera pas, évidemment la confiance sera perdue. Enfin, que faire?
Et d'un dernier mot, s'il vous plaît, oui, je vous écoute. Oui.
Non, juste, la police peut réprimer les manifestations. Que pourrait faire l'armée de plus? En fait, pas grand-chose. Donc, je crois que actuellement, en tout cas, si la situation ne se détériore pas, les chances d'intervention sont assez faibles.
Merci infiniment. Merci beaucoup, Jean-Philippe Béja, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Le cas de Jeffrey Epstein montre que nous vivons dans une sorte d'univers de fantasmes paranoïaques. Ce sont les mots du prix Nobel d'économie Paul Krugman, relevé par lemonde.fr. Il donne une idée de l'intensité du choc que constitue le suicide en prison du financier, millionnaire, ami des puissants et délinquant sexuel notoire. La classe politique américaine s'époumonne sur les plateaux de télévision et les très nombreuses accusatrices de Jeffrey Epstein s'indignent des manquements de la justice. Loïc Loury nous appelle de New York.
Jeffrey Epstein s'est suicidé parce qu'il était trop lâche pour faire face à la justice. Voilà ce qu'affirme Alicia Arden, l'une des victimes présumées de l'homme d'affaires, un sentiment exprimé par d'autres depuis la mort du financier. Jack Scarola, qui représente plusieurs d'entre elles, lui aussi est furieux, impensable, dit-il, de laisser Epstein se suicider avant son procès.
There is no one among Jeffrey Epstein's
victims. Parmi les victimes de Jeffrey Epstein, pas une actuellement ne pleure sa mort. Mais en même temps, une fois encore, la justice a laissé tomber les victimes de Jeffrey Epstein, parce qu'elle les a privées de l'opportunité de le voir comparaître en bonne et due forme pour tous ses crimes.
For all of his crimes. Mais si l'homme d'affaires emporte avec lui ses secrets, l'enquête fédérale reste ouverte. Nous ne vous laisserons pas tomber, promet un procureur en charge du dossier. Lisa Bloom, avocate de certaines de ses accusatrices, affirme que tout n'est pas terminé.
Je demande aujourd'hui à ce que tous ces avoirs soient gelés, qu'ils ne soient pas dispersés mais conservés, afin que ces victimes puissent être compensées entièrement, de manière équitable, pour les blessures à vie qu'il leur a causées.
Et d'autres que Jeffrey Epstein, en effet, pourraient se retrouver devant la justice. Ghislaine Maxwell, notamment, qui aurait aidé l'homme d'affaires à organiser son réseau sexuel. Ses proches également, les puissants de ce monde, dont certains sont déjà cités comme ayant partagé ses crimes. C'est vers eux que les victimes de Jeffrey Epstein pourraient désormais se tourner.
Le Portugal est, selon le gouvernement, en situation de crise énergétique jusqu'au 21 août. Grève illimitée des transporteurs de carburant à compter de demain. Les négociations pour des augmentations de salaire menées par leurs syndicats ont échoué hier. À Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, des centaines de personnes ont entouré la famille d'une jeune femme de 29 ans, enceinte de 8 mois, abattue dimanche dernier par son ex-compagnon, 85e féminicide depuis le début de l'année. Reportage Olivier Martoc.
En tête de cortège, les amis d'enfance de Chloé. Virginie avait fait toute sa scolarité avec elle. Elle connaissait aussi très bien le meurtrier, devenu un des caïds du quartier.
Lui, on le connaissait très bien aussi de l'école Marie-Madeleine Fourcade. On a grandi tous ensemble au niveau de l'STU, du quartier. Donc on savait très bien qu'il était vraiment pas tranquille du tout. On en avait même peur. Je l'avais croisé il y a une semaine à la pharmacie Saint-Pierre. Il avait le bracelet au pied, déjà. Ah oui. Un gros caïd. Tout ce qui est trafic de stupéfiants, tout ça était déjà beaucoup connu. Hein. Pour moi, il n'a pas de cœur. Tiré comme ça, sans froid, déjà dans le ventre de son ex-compagne, honnêtement, en prison. Je ne souhaite pas la mort aux personnes, mais qui souffre bien, et que la sentence soit bien rendue.
À ses côtés, Cécilia, pour qui l'éducation joue un rôle primordial si on veut lutter contre les violences conjugales.
Pour moi, je pense que ça vient déjà de l'éducation. Moi, mes parents, ils nous ont toujours prévenu que, voilà, surtout à mes frères, hein, qu'il fallait surtout pas toucher une femme, que s'il vraiment était malheureux avec elle, ben, il fallait se séparer, mais surtout jamais frapper une femme. L'éducation, c'est vraiment le point essentiel, ah oui.
Ibrahim Ba, le meurtrier, est en détention. L'assassinat en pleine rue, en bas de son immeuble, a eu lieu devant de nombreux témoins.
Quelques mots de la météo, épisode orageux violent jusqu'à 22h en Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Demain lundi, temps perturbé le matin et plus frais avant de s'éclaircir dans l'après-midi, sauf sur les Alpes. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique Jean-Guy Linmège.